Le journal Loïc Barrière. Premier conseil des ministres du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. Le premier texte de loi concernera le pouvoir d'achat. Deux candidats aux législatives à Paris invités de pluriel. Nicolas Jeanneté, candidat de la droite et du centre, fait campagne notamment sur la sécurité. Mayalène Mallet, candidate du parti Allons Enfants, insiste elle sur les questions de jeunesse. Extrait dans ce journal. En Iran, l'assassinat d'un colonel des gardiens de la Révolution. En Jordanie, 4 morts et 6 blessés dans une opération anti-drogue. Coup de projecteur sur l'enfance maltraitée en Algérie. Entretien avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Enfin, Joe Biden prévient Pékin que les États-Unis défendront Taïwan en cas d'invasion chinoise. En France, premier conseil des ministres depuis la nomination d'Elisabeth Borne et de son gouvernement. Un projet de loi sur le pouvoir d'achat sera présenté en conseil des ministres avant les législatives des 12 et 19 juin. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire, qui a rappelé les 3 autres priorités du gouvernement: éducation, santé, écologie. Le président Macron, lui, a pris la parole au début du conseil des ministres. On l'écoute.
Le gouvernement que vous constituez est avant toute chose, comme je l'évoquais dans cette même salle le 7 mai dernier, un gouvernement pour agir. Agir au service de nos compatriotes, agir au service du projet sur lequel ils m'ont fait confiance les 10 et 24 avril dernier. Agir dans un contexte inédit, celui où nous sortons à peine d'une pandémie, si tant est qu'elle soit totalement terminée, où la guerre est revenue en Europe et où, très clairement, nous avons à affronter des défis inédits pour notre société, notre continent. Le gouvernement que vous constituez est un gouvernement pour agir, donc, rassembler notre pays, un gouvernement qui lui ressemble. C'est un gouvernement tout à la fois de continuité, de nouveauté, avec des femmes et des hommes qui sont issus des formations politiques qui m'ont amené aux responsabilités en 2017 et 2022, d'autres venant de formations politiques différentes, avec cette idée de rassembler, d'unir autour du projet qui nous porte. Des femmes et des hommes qui viennent de la société politique, en tout cas qui ont une expérience politique et des mandats d'élus depuis plusieurs années, et d'autres qui viennent de la société civile et ont décidé de s'engager au service de ce projet. Et c'est pourquoi l'action qui sera la nôtre sera tout à la fois de consolider ce qui a été fait durant les 5 années qui viennent de s'écouler, car un deuxième mandat n'est pas un mandat pour refaire ou défaire, non, il s'installe sur un socle solide, celui d'un bilan, d'une action résolu, mais à l'aune des défis nouveaux, de ce que nous voyons dans notre société, de ce mandat nouveau qui m'a été confié, de pouvoir bâtir une action nouvelle sur le fond et sur la forme, c'est-à-dire de pouvoir embrasser des défis nouveaux, de le faire plus rapidement encore, mais de le faire aussi avec une méthode, et nous y reviendrons avec Madame la Première Ministre nouvelle.
Le président Emmanuel Macron, un conseil des ministres entaché par les accusations de viol visant le nouveau ministre venu de la droite Damien Abad, accusation rejetée par le ministre. Selon la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire, le gouvernement est aux côtés de celles qui, suite à une agression ou à du harcèlement, ont l'immense courage de parler. Mais selon elle, c'est à la justice d'établir la vérité. Le premier tour des élections législatives aura lieu dans 3 semaines. Le premier invité de pluriel, ce lundi à 19h et 23h, est Nicolas Jeanneté, candidat de la droite et du centre, dans la 13e circonscription de Paris. Il évoque une société fracturée.
Le pays n'a jamais été aussi fracturé qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pas en nommant Elisabeth Borne comme Premier ministre qu'on va arranger les choses. On nomme pas, quand un pays est fracturé, une technocrate, une ancienne directrice de cabinet comme Premier ministre. On prend quelqu'un du plus politique. On se souvient d'Elisabeth Borne dans les relations qu'elle a eues pendant les Gilets jaunes ou d'autres sujets chauds. elle a été très dure. Les syndicats trouvent qu'elle est très sévère. Donc je pense que déjà, il y a un choix qui n'est pas forcément très bon, c'est celle d'avoir choisi une technocrate dans un pays très fracturé. Oui, il y a des tensions. Oui, il faut recomposer aujourd'hui cette société qui va dans tous les sens. Et on le voit aujourd'hui, entre les tirs de mortier, les problèmes de drogue, de toxicomanie, la délinquance, les migrants étrangers isolés, on a un certain nombre de choses qu'il faut essayer de résoudre aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément plus de policiers, hein, mais c'est surtout réformer la justice. Il faut que cette justice soit plus rapide et que les peines soient respectées. Et ça, il faut reprendre un vrai plan de justice. Les états généraux de la justice avaient été lancés dans le premier quinquennat. Ils n'ont pas abouti. Là, il faut les mener pour donner plus de moyens aux tribunaux, construire plus de prisons et avoir, je vous en supplie, une justice plus rapide.
Nicolas Jeanneté, candidat de la droite et du centre dans la 13e circonscription de Paris. Il est l'invité de Pluriel ce lundi à 19h et 23h. À 19h15 et 23h15, notre seconde invitée est Mayalène Mallet, candidate Allons Enfants dans la même circonscription. Elle souhaite, elle, défendre la jeunesse. On l'écoute.
On peut se souvenir des files devant les aides alimentaires qui nous avaient tous un peu choqués de cette jeunesse qui est dans la grande précarité, qui vit dans des chambres de bonne. Enfin, moi, j'ai fait 2 confinements dans une chambre de bonne à Paris. C'était assez éprouvant. Et quand on vit ça, quand on se soucie beaucoup de notre avenir, beaucoup de jeunes subissent ce qu'on appelle l'anxiété écologique, qui est la peur de l'avenir par rapport à tout ce qui se passe autour de nous.
Donc, on le voit avec ce mois de mai qui a été l'un des plus chauds de l'histoire en France.
Exactement. On le voit, les conséquences sont déjà là. Elles sont là en France, mais elles sont beaucoup plus agrandies dans d'autres pays. On voit par exemple au Bangladesh et en Inde, où les conditions sont absolument déplorables et c'est les pays les plus pauvres qui le subissent le plus. Et donc concrètement, comment on peut agir? Déjà, on fait le constat que tous les citoyens, sauf les jeunes, ont un revenu minimal, le RSA. Mais cette jeunesse est totalement exclue de ce revenu. On considère qu'il ne mérite peut-être pas de vivre dignement. Et donc on propose d'étendre le RSA aux moins de 25 ans pour qu'on puisse en fait vivre avec des moyens tout simples.
Pour les moins de 25 ans qui ne vivent plus avec leurs parents ou bien pour tous les jeunes?
Il y a une grande réforme à faire sur tout ce qui est calcul des bourses, calcul des APL, pour qu'on puisse systématiser toutes les aides qui puissent exister. Et puis que quand on n'est plus étudiant et qu'on n'a pas encore de travail mais qu'on a moins de 25 ans, on se retrouve sans rien du tout. Parfois nos parents ne peuvent pas nous aider, parfois ils ont un revenu qui fait qu'on n'a pas de bourse du tout mais qui ne permet pas d'être aidé du tout pour continuer notre vie.
Oui, vous pensez notamment à la classe moyenne qui
Exactement.
A très peu d'aide.
Exactement. Et donc, juste, c'est pas un coût financier très important, mais c'est un moyen d'accompagner cette jeunesse et lui permettre de s'épanouir convenablement.
Il y a aussi l'idée que les étudiants pourraient avoir le droit d'étudier sereinement, sans être obligés de travailler et prendre le risque de rater leurs études.
Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui font des jobs à côté de leurs études, qui leur prennent beaucoup, beaucoup de temps pour se payer un petit loyer et parfois redoublent leurs années d'études parce que ils n'ont pas pu avoir seulement le temps d'avoir les études. Et puis surtout, on reproche à la jeunesse d'être pas forcément engagée en politique, en association. Et c'est aussi avoir le temps d'avoir des engagements extérieurs, des activités culturelles.
Il y a un sujet dont on ne parle absolument plus, Mayalène Mallet, c'est le nombre d'étudiants dans les universités. Qu'est-ce que vous souhaitez, notamment comme réforme pour les études universitaires?
Il y a une grande réforme de l'enseignement et on voit que la politique de Macron n'est pas allée en faveur des étudiants qui va vers l'augmentation des prix de l'université, la baisse des places, la sélection en master, toute la sélection qu'il y a après le bac. Il faut vraiment faire une réforme structurelle de tous ces points qui empêchent les étudiants de pouvoir faire
mais
les études
comment
qu'ils souhaitent.
Parce que il y a un problème de nombre d'enseignants, il y a un problème de locaux. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, Mayalène Mallet?
C'est des enjeux financiers, des enjeux de moyens, mais on le voit dans tous les politiques, dès qu'il y a une volonté politique d'agir, le gouvernement en est tout à fait capable. Et donc il n'y a pas cette volonté aujourd'hui d'agir auprès de la jeunesse et de lui permettre de s'épanouir. C'est toujours les classes les plus aisées qui en profitent le plus. Et une personne qui vient d'un milieu populaire ne peut pas aller à la fac parce qu'il n'a pas forcément les moyens de se payer un logement, de se payer les prix d'université. Donc c'est vraiment une question politique de considérer la jeunesse à son échelle.
Mayalène Mallet, candidate Allons Enfants aux élections législatives à Paris dans la 13e circonscription. Elle est l'invitée de Pluriel à 19h15 et 23h15. En Iran, l'assassinat d'un colonel des gardiens de la Révolution, Sayad Kodahi, a été tué par balle par deux motards dans l'est de Téhéran. Le président iranien Ebrahim Raisi a réagi en affirmant que cet officier serait vengé. C'est la première fois qu'un haut gradé est ainsi assassiné à Téhéran depuis novembre 2020. L'armée jordanienne a tué 4 personnes qui essayaient d'introduire clandestinement de grandes quantités de drogue à partir de la Syrie. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres, 6 personnes ont été blessées lors de l'opération. Certaines sont dans un état critique. Gros plan sur les violences faites aux enfants en Algérie et sur la politique mise en œuvre pour les protéger. La déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Chorfi, a fait état de 1200 signalements d'atteinte aux droits de l'enfant enregistrés depuis le début de l'année. Entretien avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
En Algérie, il y a un plan d'action qui a été adopté en 2008 pour les enfants, donc un plan d'action pour la protection de l'enfant, et qui a été débouché en 2014 par un amendement du code pénal, qui a abouti en 2014 par un amendement du code pénal durcissant les peines encourues par les auteurs de violences à l'égard des enfants, et en 2015, une loi relative à la protection de l'enfance qui consacre un certain nombre de nouveaux droits pour les enfants et instaure des mécanismes de protection renforcés dans la création de l'organe national de protection et de la promotion de l'enfance, donc qui élabore annuellement des rapports sur la situation des enfants, notamment ceux qui sont abandonnés par leurs parents, ceux qui subissent des châtiments corporels, notamment au milieu de famille, au milieu des enfants orphelins, dans le milieu scolaire, etc.
Vous évoquiez les nouveaux droits accordés aux enfants, quels sont-ils ?
Il y a la loi sur la protection de l'enfance qui est très sévère, qui a été adoptée parce qu'à un moment donné, en Algérie, on avait connu un phénomène inédit, celui du kidnapping d'enfants. Des cas ont été signalés dans plusieurs régions du pays. Parfois, les enfants sont trouvés sains et saufs et on a eu des cas malheureusement où les enfants ont été tués. Et ceux qui commettent ces actes sont généralement des personnes qui souffrent de problèmes psychiques ou d'autres problèmes. Et il y a aussi, en 2008, le Parlement algérien a adopté une loi sur l'éducation qui interdit les châtiments corporels, les sévices moraux et toute forme de brimade dans les établissements scolaires. Cela, bien sûr, a donné un instrument aux parents pour pouvoir poursuivre au cas où des enseignants qui seraient comportés d'une manière violente avec les enfants. Et la loi sur la protection de l'enfant, qui a été donc adoptée en 2015, a effectivement énormément contribué pour protéger les enfants vulnérables, ceux par exemple qui sont sans famille, qui sont dans des centres d'éducation ou de rééducation ou de prise en charge sociale.
Il y a eu une prise de conscience en Algérie sur cet aspect.
Oui, absolument, parce que l'enfance est souvent abordée dans les médias, à travers des reportages, des émissions spécialisées à la télévision, et cette dynamique s'est poursuivie par la révision constitutionnelle, la première révision en 2016, qui a inscrit dans la loi fondamentale, dans cette constitution, des droits importants pour une protection accrue des enfants, pénalisation du travail des enfants, répression de la violence contre les enfants, obligation pour les parents d'assurer l'éducation des enfants. Donc, effectivement, sur le plan légal et sur le plan législatif, il y a eu beaucoup d'avancées par rapport à la protection de l'enfant, de l'enfance et aussi par rapport à la protection des droits des enfants.
L'Algérie, qui est dotée d'une déléguée nationale à la protection de l'enfance, quel est son rôle aujourd'hui ?
Son rôle, d'abord, c'est de répertorier tous les cas de sévices corporels ou sexuels contre les enfants, de cas de violence, de cas d'exploitation, parce que cela a été constaté ces dernières années, dans des chantiers par exemple, ou dans des projets économiques privés, où il y a une exploitation de la main-d'œuvre enfantine, des enfants qui ne dépassent pas les 16 ans, qui sont donc exploités et qui ne sont pas suffisamment payés ou protégés. Et cet organisme d'État souligne le fait que l'État s'intéresse à cet aspect, parce qu'on a tendance à parler effectivement de violence contre les femmes, mais on oublie souvent les enfants, surtout les enfants qui sont abandonnés par leurs parents, il y a des enfants orphelins. Cet organisme d'État répertorie tout ça, trouve les mécanismes de protection, recherche aussi des fonds pour les associations et la société civile qui travaillent sur ces thématiques et ces dossiers, sert aussi d'un point d'alerte à l'égard des autorités, des pouvoirs publics, au cas où il y a donc des situations de vulnérabilité ou de menaces contre l'intégrité physique et morale des enfants.
Vous évoquiez les violences intraconjugales dont les enfants sont souvent les victimes collatérales.
Souvent dans les couples, parce que souvent quand il y a séparation des parents, et la loi algérienne privilégie que l'enfant reste avec sa mère. pas avec le père, sauf dans des cas exceptionnels où la mère, par exemple, souffre de problèmes psychiques, etc. Ces cas de séparation qui, d'abord, c'est devenu un phénomène. Ces quatre dernières années, il y a eu beaucoup de cas de divorce constatés dans les tribunaux, et c'est effectivement les enfants qui souffrent de cela, souvent sur le plan psychique aussi. Les experts dans le domaine de la protection de l'enfant parlent de la faiblesse d'un système national de collecte et de gestion de données sur la situation des enfants. C'est pour ça qu'il y a donc cet organisme d'État pour essayer de centraliser les informations sur les cas d'atteinte à l'intégrité physique des enfants. Les experts estiment qu'il y a un manque d'intégration, qu'il y a un manque d'intégration d'une culture des droits de l'enfant dans les milieux professionnels, scolaires, universitaires.
Les enseignants, notamment, sont sensibilisés?
Oui, souvent, parce que l'organisme d'État est en collaboration avec la société civile, en collaboration aussi avec les associations, parce qu'il faut noter qu'il y a beaucoup d'associations en Algérie, au niveau local ou au national, qui travaillent sur ces thématiques et qui sont très très actives sur le terrain, font beaucoup beaucoup de sensibilisation dans les quartiers, dans les milieux scolaires. Et donc souvent, ces associations, ces animateurs sociaux, et ces, j'allais dire, agitateurs d'idées également, qui font du bien à la société finalement, se déplacent dans les milieux scolaires, se déplacent dans les établissements pénitentiaires parfois, et aussi dans les centres de formation professionnelle pour ouvrir les débats à l'occasion par exemple des journées de l'enfant algérien ou africain qui sont souvent célébrées en Algérie, ou à l'occasion d'autres événements religieux comme le l'Aïd ou le Ramadan, pour essayer donc d'ouvrir des débats sur ça et d'attirer l'attention, et parfois même de lancer des opérations de charité et de solidarité avec les enfants qui sont dans des familles démunies, qui n'ont pas par exemple la possibilité d'acheter des fournitures scolaires ou d'acheter des vêtements pour les fêtes de l'Aïd.
Alors il existe un numéro de téléphone, le 1111, un numéro mis à disposition des citoyens pour signaler les violences ou pour demander de l'assistance, et ce numéro a reçu plus de 300 000 appels depuis le début de cette année.
Absolument, et ça a été un des éléments importants, parce que cela d'abord a attiré l'attention sur l'existence de cas non connus, parce que quand l'enfant subit des châtiments corporels ou il est puni par ses parents, par sa mère, son père ou ses grands-parents à l'intérieur d'un foyer, c'est évidemment difficile de le savoir. Mais le fait d'alerter, d'avoir un numéro de téléphone, d'avoir la possibilité d'attirer l'attention sur ces cas, a énormément contribué à lever le voile sur ce qu'on peut appeler un phénomène social.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie, au micro de François-Xavier de Calonne. Un vigile a été tué ce lundi matin devant l'ambassade du Qatar à Paris. Un suspect âgé de 38 ans a été interpellé. Joe Biden prévient que les États-Unis défendront militairement Taïwan en cas d'invasion par la Chine. Le président américain, en tournée en Asie, a également annoncé le lancement d'un nouveau partenariat économique en Asie-Pacifique, un partenariat qui concernera 13 pays participants, dont les États-Unis et le Japon, mais pas la Chine. Enfin, le décès de l'acteur et metteur en scène Ahmed Benaïssa, considéré comme une grande figure du théâtre et du cinéma algérien. Il est mort à Cannes, juste avant la projection du film Goutte d'or, dans lequel il jouait. Ahmed Benaïssa avait 78 ans. Cette édition est terminée. Merci de votre fidélité.